Eh bien, c'est là, c'est dans l'élaboration de ce raisonnement, que la Mishnah a changé le terme employé par la Torah, prendre part de l'argent, c'est-à-dire par ce qui assure l'objet du désir, par le terme de acquérir pour indiquer que c'est définitif, que c'est éternel. De la même manière qu'Abraham tenait à ce qu'il y ait un contrat de vente, éternel, pour qu'aucune contestation de l'appartenance de la terre d'Israël à Israël puisse être un jour présentée. Vous savez très bien que finalement le seul argument que le peuple juif a reconnu, du moins par l'humanité, c'est que c'est écrit dans la Bible, que c'est la terre qui nous appartient. Sinon personne ne nous la donnerait, même si on achète avec de l'argent ce que le KKL essaye de faire, en se basant sur les versets qui sont cités par la Gemara ici. Tous les champs seront rachetés par de l'argent. C'est ce que le KKL a fait. Eh bien, vous voyez donc le problème qui se pose à cette législation. C'est-à-dire, étant donné une certaine conception que l'on se fait du mariage, comment doit être la procédure? Et c'est la procédure qui atteste que c'est cela de quoi il s'agit et pas autre chose. Alors, bien entendu, c'est juste une idée qui vient après, rigoureusement logique, bien entendu, le tribunal rabbinique va réaliser la procédure du mariage comme si c'était vraiment un mariage, comme si cette qualité de désir menait à époux, épouse et à frère, sœur, mais en renvoyant la sanction au tribunal céleste. Ça veut dire, si le mari qui a engagé mariage était sincère, bien ça réussira. Sinon, déjà dans le contrat de mariage, il est prévu que c'est le tribunal céleste qui demandera les comptes si ce à quoi on s'est engagé dans la procédure n'est pas réalisé. Alors c'est notamment symbolisé par la phrase qui est dite au moment de la consécration. On dit exactement ceci: tu m'es consacré par cet anneau selon la loi de Moïse et d'Israël. Alors on a demandé pourquoi la loi de Moïse et d'Israël, c'est la même. Mais en hébreu ça veut dire un petit peu quelque chose de différent. Ça veut dire comme la loi de Moïse est consacrée à Israël. Ça veut dire si c'est cela qu'on prend comme modèle du désir de l'un et de l'autre, alors c'est un vrai mariage. Et c'est à cela qu'on s'engage. Il y a Midrash qui dit, en parlant de la loi qui a été donnée à Israël, que Dieu avait une seule fille, une fille unique, et puis qu'il la confie à celui qui l'a demandé en mariage, c'est-à-dire Israël, en le prévenant des lois du mariage et de la manière dont il faut se conduire avec elle. C'est le contrat de mariage qu'on récite à Shavuot. La fameuse Ketouba où le fiancé c'est Israël et la fiancée c'est la Torah. Et voilà donc ce qui est véhiculé par cette procédure. Si je vois, comme je vous disais au début, c'est en étudiant la procédure elle-même que se dévoilent les attitudes concernant la conception de ces choses. Enfin, si vous voulez, pour conclure, il y a une situation de la réalité qu'il faut briser, c'est le fait que dans la relation matrimoniale, c'est un sujet qui est aux prises avec un objet, et réciproquement, et de réintégrer la relation de sujet à sujet. Alors, en gros, si vous voulez, ce qu'on pourrait voir dans le commencement du commencement.
Bon, vous allez poser des questions. Je confesse que je me rends compte, par l'intensité des débats, qu'il est certain que les thèmes plus sociaux, en quelque sorte, de la Bible suscitent plus d'intérêt que a priori pourrait a priori nous susciter des problèmes comme Cain et Abel, par exemple.
Oui.
Donc nous y viendrons, si vous voulez, nous parlerons beaucoup de mariage et de divorce.
La vie conjugale.
Bon, ceci étant, avez-vous des questions?
En quoi la conduite frère-sœur peut-elle être considérée comme un objectif?
C'est une manière de la dignité entre hommes et femmes, au niveau du frère et de la sœur, qui est de nature différente qu'au niveau de l'époux et de l'épouse.
On pourrait dire au niveau du frère et
du frère. Non, c'est frère. C'est-à-dire l'autre que l'homme, c'est-à-dire la femme, et non pas l'autre que l'homme, c'est-à-dire le frère, c'est-à-dire l'autre homme. L'autre que l'homme est réciproquement pour la femme, en tant qu'il apparaît dans cette dignité, enfin, comme on dit ça dans les hymnes, de l'ancestralité, de la fraternité, enfin, dans un sens beaucoup plus profond que, on peut le dire littéralement, c'est-à-dire pas objet de possession physique, mais objet de dialogue réel. Lorsqu'un frère parle avec sa sœur, eh bien, le dialogue est épuré, parce qu'a priori, la relation sexuelle est en dehors. Hein? Tandis que
on ne pourrait pas faire...
Comment? Ah non, ça n'a rien à voir. C'est une femme, la sœur. Aimer sa femme comme on aime une sœur et aimer sa femme comme on aime une épouse, c'est pas exactement la même chose. C'est pas même du tout la même chose. Et alors, finalement, voir dans le même individu et l'épouse et la sœur, c'est ça l'objectif.
Dans son mal, la manifestation de désir, pas dans sa manifestation d'être, c'est quand même une femme.
Oui. Et c'est avec cette même femme qu'on aura la relation sexuelle en tant qu'épouse. Mais il faut que les deux relations soient ensemble.
C'est tout la plus belle expression du grand Luc. Libastini à côté de
la. Tu m'as rendu cœur.
Ma sœur.
Ma sœur, ma fiancée.
Ma sœur, ma fiancée.
Comment ? Ah oui, ça, c'est une autre dimension de la relation d'altérité. Mais nous parlons de celle-là, hein, entre l'époux et l'épouse. Et effectivement, si vous voulez, tout ce qu'on retrouve finalement chez les poètes de l'amour courtois, hein, eh bien, il s'agit tout simplement de le prendre au sérieux dans la législation elle-même. C'est pas de la littérature, c'est pas de la poésie, c'est au niveau de la vie réglée par la morale. C'est vraiment ça le problème. C'est-à-dire, arriver à dire à sa femme ma sœur sans que ce soit une façon de parler, sans que ce soit dans un poème.
Oui. Mon ange, ma sœur.
Oui.
Mon ange, la sœur.
Oui, mamie. Et l'autre qui répond ma croûte.
Vas-y,
dans votre schéma, alors, l'idée, et
alors,
ça comme ça, c'est d'anglais, ça a été le rapport entre une femme. Mais en fait, pour chaque
année... Ça a été une acquisition, c'est ça.
Oui, mais en fait, ça a commencé par là. Oui. Mais en fait, pour chaque année, la situation était différente. C'est-à-dire qu'on a eu d'abord des relations avec les parents. Et une relation...
Ah, de, mais c'est tout de suite prévu dans le même verset. Oui. C'est la raison pour laquelle chacun se séparera de son père et de sa mère.
C'est important. Et est-ce que justement, les relations entre nous ne sont pas expliquées déjà dans le livre, dans les relations entre
oui.
les parents?
Alors, justement...
Est-ce que la situation, en fait, la situation de fille à la maison
et
d'ailleurs dans la maison, il n'aura pas influencé
oui.
si vous
voulez. Absolument. Absolument, c'est la raison pour laquelle, comment dire, le père de famille hein, doit avoir réalisé avec sa femme la relation d'épousaille pure, de telle sorte que les enfants ne soient pas atteints par quelque chose de trop. C'est bien évident. Et d'ailleurs, ceci est raconté à propos précisément du mariage d'Isaac. C'est qu'il n'a pu vraiment se marier avec Rebecca que lorsque Sarah est morte. C'est le jour où Sarah est morte que Isaac a épousé Rebecca. Effectivement, il faut, et la Bible est très claire à ce sujet, le Talmud, déjà dans l'histoire du premier homme, il faut qu'il y ait vraiment, comment dire, cessation du lien des enfants avec les parents, c'est ce qui est exprimé par le fait que c'est là le père qui doit donner sa fille. Intentionnellement, il y avait toute une cérémonie pour ça d'ailleurs, aux gens. Parce qu'il faut que ce soit attesté que le lien entre la fille et le père a été brisé.
Donner, c'est déjà.
Oui, donner, ça veut dire qu'il. Non. Il faut de nouveau embrayer. Il faut de nouveau embrayer dans la réalité normale.
D'ailleurs, je voudrais quand même te faire remarquer que tu voudrais que la Bible parle d'être qui n'existe pas.
Non.
C'est-à-dire de l'être qui parents qui ne sont pas des enfants.
Comment on dit le mot foi?
Parce qu'il ne peut s'agir que d'un choix déjà fait, je parle de la. Qu'est-ce que vous appelez d'autre? Voilà ce que je veux dire. C'est que, comment dire, il faut que le père ait attesté hein, que le lien sexuel, trouble qu'il y avait entre sa fille et lui est brisé. C'est lui qui seul peut le faire, et que la fille le réalise. J'ai entendu dire, enfin, ces temps-ci par des juifs du sud marocain, que chez les arabes, enfin, c'est pas des arabes d'ailleurs, c'est des berbères, eh bien, la nuit d'avant le mariage, la fille couche avec son père, de telle sorte de, comment dire, de... sans qu'il y ait rapport sexuel d'ailleurs, mais elle couche dans le lit dans les bras de son père, de telle sorte que toutes les tentations qu'il a pu avoir, qu'il n'y ait aucun regret, que ça s'est passé au moins une fois, et qu'elle puisse être disponible pour son mari. Vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Par conséquent, il est nécessaire que cette espèce de relation parentale naturelle soit brisée. C'est absolument évident.
Henri,
tu voulais
dire
quelque
chose?
Non, je ne sais pas, mais je ne sais pas, en fait.
quelles conditions la femme choisit son époux ou l'époux choisit sa femme. Donc, ça, je ne l'ai pas vu apparaître. On a acquérir, le père, mais on n'a pas vu la notion
de choix. Tout ça, finalement, ça concerne pas la loi. À partir du moment où le choix a été fait, comment la procédure intervient pour légaliser que c'est vraiment un mariage? Bien entendu, le choix, ça ne concerne pas la loi. Ça, c'est la vie qui fait que... Ça, c'est la vie qui fait que c'est un tel qui a choisi une telle. Je vous ai dit qu'en général, d'après les textes talmudiques, on admet, avec un peu d'humour, enfin, on admet quand même que c'est évidemment la fille qui a choisi son fiancé. Le fiancé croit que c'est lui qui l'a choisi, mais en réalité, c'est elle qui l'a amené à la choisir. C'est vrai, d'ailleurs, je crois que c'est vrai. On est beaucoup plus choisi par sa femme qu'on l'a choisi. Alors... On croit qu'on a effectivement... J'ai surtout compris ça à propos des thèses de Zondi, où il y a une sorte de destin. C'est un certain type de femme qui se fait choisir.
D'autres questions?
Hubert, pourquoi le statut supérieur
est... Effectivement, comme on dit, c'est un statut inférieur de dire qu'il y a eu acquisition comme si c'était un objet. Oui, parce que le terme employé par la législation rabbinique, c'est que, évidemment, le mariage n'est réussi que quand cette virtualité du Hefkerut, ça veut dire que n'importe qui appartient à n'importe qui, a été brisé, anarchique. Seul, celui qui est vraiment époux a le droit de dire je mérite d'avoir brisé ce lien entre cette femme et les autres. Voilà. C'est pourquoi c'est un stade ultime. Il y a un très joli verset du prophète Osée où Dieu parle à Israël et dit: il arrivera un temps où tu ne m'appelleras plus ton Baal, mais tu m'appelleras ton Ish. Ça, c'est quand ça a réussi. Et alors, si effectivement dans sa conduite il est Ish, eh bien, alors à ce moment-là, c'est vraiment sa femme. Sinon, c'est ce que la fin de la Mishnah prévoit. Il sera ou obligé de divorcer, ou bien il mourra avant. Enfin, même s'il c'est une mort psychique alors qu'il reste biologiquement vivant, mais le lien entre lui et sa femme, que ce soit vraiment sa femme ou qu'il soit vraiment son mari, ça c'est déjà mort. Ou ils vivent comme s'ils étaient divorcés, même s'ils ne sont pas divorcés les gars. Et ça se traduit d'ailleurs par un détail de la procédure. Si, le mari a promis une certaine dot, il n'a pas le droit d'en donner une autre, même si elle est équivalente, ça s'appelle khalifi. Ça veut dire changer ce que l'on a promis pour ce que l'on va donner. Alors le commentaire établi, ça veut dire qu'elle s'est mariée avec celui-là, pas avec cet autre. Si après le mariage, il se révèle que c'est un autre, alors le divorce est donné automatiquement, sans qu'elle soit pénalisée au point de vue du contrat, c'est-à-dire c'est elle qui garde la maison. Parce que c'était pas avec celui-là qu'elle s'était mariée. Le fiancé, c'était un autre. Puis après le mariage, il y a eu changement. C'est-à-dire, elle a cru que c'était un ish, mais voilà, c'est un baral, c'est un autre. Vous voyez à quel point c'est... Comment il pourrait y avoir? Ah, bien sûr. Bien sûr. Si c'est quelqu'un qui d'emblée est au niveau moral de l'époux, eh bien on ne considère pas qu'il y a eu acquisition, il y a eu d'emblée consécration. C'est sûr. Donc je vous disais, si vous voulez, un point de vue très banal, n'est-ce pas? Lorsque le fiancé est très gentil pendant les fiançailles, et puis c'est un peu ce que nos femmes nous disent d'ailleurs, et puis après les fiançailles, eh ben, ils sont un peu moins gentils. Alors c'est un cas de divorce pour la législation de laïque. C'est plus le même.
Mais la rédaction du Deutéronome, ça paraît une société de l'époque comme beaucoup plus oppressive.
Justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ça, je vous remercie d'avoir rappelé ça. Je vous dis, pour pouvoir lire la Bible, il faut d'abord passer par la tradition juive elle-même. Lorsqu'on lit en détail par l'élaboration de cette législation matrimoniale, telle qu'elle est dans les codes, nous les avons les codes, si vous voulez, un jour je vous apporterai le code de Maïmonide et je vous lirai livre ouvert tout ce que le mari doit à sa femme juridiquement. Vous verrez que c'est tout le contraire. C'est-à-dire, nous avons des clichés qui consistent à voir la législation biblique du mariage à la manière de ce que c'est, je ne sais pas moi, la législation de telle tribu berbère ou bédouine, j'en sais rien, mais ce n'est pas du tout ça. Vous voyez ce texte avec une mentalité complètement différente, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire et il faut lire les textes comme ils sont écrits, c'est-à-dire c'est une législation qui protège beaucoup plus la femme que l'homme. parce que la Bible considère que l'état des choses et que l'homme est, il est protégé par la société, par conséquent, elle intervient en inversant le problème. Je dis pour moi-même, enfin, qui ai vécu dans une famille juive traditionnelle, je voyais quand même les hommes se conduire avec leurs femmes du point de vue de la tradition juive, quand j'ai lu ça dans le texte, dans les détails, j'ai fait une découverte, enfin, c'est tout à fait différent. Et on trouve ça chez les chassidim. Les chassidim ont un espèce d'impératif, pas, c'est que la femme du rabbin, du chassid, enfin du tzaddik, doit être toujours habillée comme une reine. Effectivement, j'ai lu ça chez eux. C'est-à-dire, il n'est le roi qu'à la condition qu'elle soit la reine. Voilà. Et alors, au point que ça devient une hérésie chez les chassidim, que la femme du tzaddik ne soit pas la plus jolie femme de la ville. Parce que si ce n'est pas la plus jolie femme, ça ne peut pas être la femme du tzaddik. Vous voyez à peu près le problème.
C'est pour ça que le rabbin Mershkarim. Bon.
Elle est pas si jolie que ça. je la connais très bien puisqu'elle a été pendant 3 ans mon élève. Alors. Mais c'est une conversion sincère, là, ça je peux le garantir. Seulement elle a des rêves comme ça, elle veut être la mère du Messie, alors il faut se marier avec le chef de Mershkarim.
D'autres questions? Vas-y, Pagani.
Dans les détails les plus simples, les plus élémentaires, c'est un sens technique, dans un règlement primaire. C'est vraiment dans tous les détails, et pas seulement le survol philosophique, parce que c'est un ensemble de règles juridiques. Nous devons entendre l'expression des règles et la manière dont elles sont. Pour qu'un exposé des législatives.
Si j'ai bien compris votre question,
c'est qu'effectivement, ce que le Talmud nous donne, c'est uniquement l'élaboration des règles de la conduite. Et pour vous donner un exemple, la prestation sexuelle est considérée comme appartenant à la femme. Ça veut dire que c'est elle qui a le droit d'en disposer. Et bien entendu, elle ne doit pas la refuser parce que le mari a obligation de la réaliser. C'est une obligation que la loi lui donne. Et d'ailleurs, dans le temps, c'est tout à fait différent. Je vais vous dire jusqu'où ça va. Dans les sociétés traditionnelles, eh bien, s'il arrivait une situation de ce genre, pour quelque raison que ce soit, si la conciliation n'était pas possible, alors on promulguait ça dans la communauté. Un tel ne réalise pas ses devoirs. Enfin, je vous dis les choses, les mots qu'on emploie maintenant. Ou bien une telle se refuse à son mari. Et parce que c'est normal, puisque c'est ça le mariage, d'abord. Ou bien, c'est le fait que le mari n'a pas le droit de changer de métier si le changement du métier doit avoir une incidence sur sa capacité sexuelle, qui est la propriété de sa femme. Elle a le droit de décider qu'il ne peut pas changer de métier parce que ce n'est plus le même homme. Vous voyez le problème. Notamment lorsque le métier fait voyager. Alors tout ça est prévu de façon très précise. Hein? C'est-à-dire, si elle accepte, elle accepte, c'est elle qui décide. Ah, mais si elle ne veut pas, le tribunal rabbinique lui donne le dit.
Ça va te fatiguer.
Et c'est extrêmement enseigné, enfin, dans le détail. Nous avons des quantités de livres qu'on fait d'ailleurs apprendre aux jeunes gens avant le mariage, de sorte qu'ils sachent comment manier cette science pratique de la sexualité.
D'autres questions?
Et d'ailleurs, je dois vous dire que c'est, en principe, d'ailleurs dans les familles pieuses, ça se fait, c'est ça l'initiation à la bar mitzvah. C'est le jour même de la puberté, la bar mitzvah. Et l'initiation à la bar mitzvah, c'est pas des histoires mystiques, philosophiques, ce que vous voudrez. C'est que le père doit apprendre à son fils, et bien maintenant tu vas être capable de donner la vie, voilà comment il faut faire. Et c'est la raison pour laquelle, en principe, dans une famille traditionnaliste normale, eh bien, il n'y a pas de problème de complexe sexuel, de crise d'adolescence, etc., puisque c'est au moment de la puberté que l'initiation doit être faite, d'emblée sacralisée. Ça veut dire ça, c'est pas du tout les choses honteuses dont on ne parle pas, c'est la religion elle-même. à ce rôle du père. Si c'est parce que le père ne peut pas, on fait appel à un maître. Mais c'est le rôle du père. Mais, mais justement, mais c'est ça le scandale, parce que c'est devenu une confession religieuse dévitalisée, mais enfin c'était ça l'essentiel, c'est ça l'essentiel. Le jour d'avant Mitzvah, c'est le jour de la puberté, alors on calcule d'après le, si vous voulez, la semaine de la puberté, d'après la naissance. Mais non, ce sont les juifs qui se
font les bois.
Oui.
C'est une chose qu'on enseigne au jour de la bar mitzvah.
C'est sûr que le jour de la bar mitzvah, quand le fils monte à la Torah, quand le gosse monte à la Torah, il sait pourquoi il monte à la Torah, parce que maintenant il va être capable de faire un enfant. Alors c'est un homme. C'est ça qu'il doit savoir. Et le, comment dire, il a accédé à la majorité naturelle, la majorité naturelle. Et si vous voulez, non, je veux dire, le scandale, c'est la conception que les juifs se font du judaïsme. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit « Les communautés ont les rabbins qu'ils méritent, et les rabbins ont les communautés qu'ils méritent. »
Très bien. Alors, oui.
Vas-y. Parce que si vous avez dit tout à l'heure de la polygamie, si vous avez dit que ça volait, mais ça parle très clairement.
D'une part... Écoutez, je vais vous dire. Il est arrivé, si vous voulez, dans le judaïsme occidental, c'était exactement il y a 1100 ans, la fameuse Takana des Rabbanim d'Hershey, qui interdit dans toutes les communautés ashkénazes la polygamie. Par conséquent, depuis le 9e siècle, dans aucune communauté ashkénaze, on acceptera l'idée de la polygamie. D'autre part, cette Takana n'a pas été acceptée par les séfaradim, mais de toute façon, il n'y avait de polygamie que quand la première femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Et au bout de 10 ans, et sur décision de la première femme, qui elle choisissait la seconde. D'autre part, il y avait toute une série de précautions, de telle sorte d'être sûr que le père de famille, le futur père de famille en question, avait la possibilité d'avoir 2 maisons, parce que chaque femme avait la sienne, puisque la maison appartient à la femme. Alors ne croyez pas que les juifs étaient polygames comme ça. Mais ceci dit, maintenant, plus dans aucune... communauté, il ne peut y avoir de polygamie parce que d'une part, toutes les communautés juives vivent dans des pays de statut occidental, même déjà en Tunisie ou au Maroc, c'est la monogamie qui va devenir le statut de la société ambiante, et d'autre part, l'État d'Israël a promulgué l'interdiction de la polygamie, sauf pour ceux qui sont déjà rentrés du Yémen ou du Sud marocain avec déjà plusieurs femmes, on ne va pas les faire divorcer. Et à partir de maintenant, si vous voulez, la question se posera plus. Bon, quel est le problème? Bien, le problème, c'est qu'ils sont entrés dans un temps où les relations sociales, où la conception du droit, etc., impliquent que la règle soit la monogamie. Il n'en reste pas moins que du point de vue de la nature réelle de ces choses. C'est la polygamie qui est plus naturelle. Bon, il est possible que si l'humanité retrouve... Et puis, ça dépend, si vous voulez, des conditions sociales, dans la mesure où il y a plus de femmes que d'hommes, plus d'hommes que de femmes, c'est très compliqué. Mais dans la mesure où l'humanité retrouvait un niveau de transfiguration ou de moralité réelle, eh bien je vous garantis que bien des désordres familiaux et sociaux seraient évités si l'homme n'était pas monogame officiellement et polygame en réalité. Et il est polygame dans le métro, il est polygame c'est lié avec sa secrétaire, enfin j'en sais rien moi. Oui, c'est ça fondé sur
ce genre de radio.
Alors,
est-ce qu'il
y a une... Il y a des choses dans la polygamie. C'est pas qu'un homme est un homme, ça me semble bien naturel, mais c'est que par là même, je prive des hommes pour une femme.
Je ne crois pas parce que il y a, je crois, avoir étudié ça dans les statistiques sociologiques, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Toujours un peu plus de femmes que d'hommes. D'abord, et puis d'autre part, encore une fois, c'est pas n'importe qui, enfin... Quand vous étudiez les sociétés primitives, la femme était considérée comme une réalité économique. Pas par conséquent, on avait une femme comme on avait une machine, finalement. Bon, mais ce n'est pas du tout cela dont parle le mariage au niveau de la Bible. Si vous voulez, on pourrait conclure là-dessus. L'idéal, ce serait qu'il y ait monogamie, bien sûr, Mais ce n'est qu'un idéal.
C'est un seul idéal.
Bien sûr, après, c'est pas tout.
La polygamie est condamnée formellement ou...
La polygamie n'est pas condamnée. La polygamie n'est pas condamnée, mais non, elle n'est pas non plus tolérée. Elle n'est pas non plus tolérée, elle est considérée comme, comme un échec, effectivement. Comme un échec, c'est le fait que le vrai mariage n'a pas pu être fait. Le vrai mariage, c'est-à-dire où l'un et l'autre sont vraiment l'un de l'autre.
Alors, est-ce que dans la Bible,
c'est pourquoi tous les hommes et les femmes sont si malheureux dans la vie matrimoniale. Enfin, regardez la réalité. Tout est vrai sur l'époque Michel.
Alors, en attendant,
Mais en attendant. Oui.
Logiquement, on est en train de nous expliquer récemment que la solution réelle, les vertus, c'est vers la polyandrie, parce qu'il n'y a rien à faire, la femme, c'est le sexe fort, etc., etc. Or, dans la Bible, dans toutes ces histoires-là, on l'a tout.
Vous parlez de l'adultère.
Oui.
Ah non, non. C'est pas la même chose, quand même. Bon, vas-y, voulez. Voilà quel est le problème, c'est que dans la mesure où effectivement il y a eu consentement de la femme, alors c'est considéré comme une faute. Mais si la femme était impuissante et ne pouvait pas se défendre, alors c'est l'homme qui seulement brise le premier mariage. Tout simplement parce que le lien qui a été installé entre cette femme et cet homme a été violé. Par conséquent, il faut légaliser ce qui est arrivé. Mais alors, c'est absolument l'indice que le mariage n'a pas réussi. Je veux dire à la limite comment les textes en parlent. Si une femme a envie d'un homme qui n'est pas son mari, alors c'est que le mariage n'a pas réussi. Mais dans la mesure où un homme a envie d'une femme qui n'est pas sa femme, alors c'est que son mariage n'était pas un mariage total, mais cela, ça reste dans la légalité morale. Je sais bien que ça peut vous offusquer de dire les choses. Je suis d'accord. Mais tout simplement parce que nous ne sommes pas habitués à faire coïncider, si vous voulez, le conditionnel et l'indicatif, l'état réel des choses avec la manière dont doit être la loi.
Je veux dire ceci d'une autre manière.
Pour qu'une femme soit la femme d'un autre homme, il faut briser le premier mariage. Mais pour qu'un homme soit le mari d'une autre femme, il n'est pas nécessaire de briser le premier.
Exactement.
Voilà.
Ou alors,
et c'est ça la disposition de la loi, il faut que l'homme se condamne à la chasteté. Ceci est la position de la loi juive, à la chasteté vis-à-vis des autres femmes dont il aurait envie. Mais jamais la loi juive n'habilitera le fait qu'un homme est une maîtresse. C'est ça le problème. Or, ce qui est le cas de la polygamie réelle de nos sociétés, c'est ça que je veux dire. Ah si, si, c'est condamné. Absolument. C'est condamné. Ça s'appelle prostitution. C'est absolument condamné. Si un homme a besoin d'une autre femme, il faut qu'il la marie avec le consentement de la première. Sinon, ça lui est interdit. Il faudrait qu'il reste avec sa première femme. C'est tout. Ce mariage a échoué, mais la moralité le condamne à la monogamie. Enfin, je suppose que c'est plus clair.
La moralité n'est pas autant.
C'est pourquoi la polygamie est plus naturelle. Boum.
Si on considère pas que tout ce qui n'est pas messianique, c'est un échec.
C'est une approximation. Alors nous avons des moments, si vous voulez, il y a des moments
où
il y a
des...
Mais non, mais il faut être quand même lucide. Nous avons des moments d'approximation de la vie réelle, des moments de... C'est les lois qui prennent dans le rouge. Alors je vais vous dire une chose.
Non. Parce
que
tout le monde
s'entend
en accord.
On est d'accord que tout le monde est d'accord avec les lois, parce que soit les gens s'arrangent toujours, c'est pas les lois qui les empêchent d'être heureux.
Non, mais vous avez
dit une fois. On avait dit que c'était la première de la loi qui empêchait d'être heureux.
Mais on savait, au fond de soi-même,
Non, ça, je disais ça.
Non,
ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça. Non, ça, je disais ça veut dire que cette attente du Messie en est en général pas sincère. Mais pour ceux pour qui elle est sincère, je veux dire, ceux qui vivent vraiment d'après cette loi sont heureux. Mais précisément, ils arrivent à faire... Ah non, non, c'est faux. Ils arrivent à faire cette sublimation qui leur permet de faire coïncider leur nature et cet idéal. C'est comme si le Messie était là. Ça va bien, hein?
Oui, je me demandais dans le cas de l'homme qui est possible à une activité de couple.
Mais c'est faux parce qu'il y a, un autre genre de vie. Enfin, on peut comme on comprend ça que par l'imagination. Il y a une unité de couple absolue chaque fois que le mari est dans la maison de sa première ou de sa seconde femme. Absolument. Et il sait que l'autre est la sœur, et la sœur de son autre femme. Si c'est réussi, c'est réussi. Si c'est pas réussi, c'est interdit. C'est-à-dire jamais un tribunal rabbinique n'admettra qu'un homme est une concubine, comme on dit, ou ça semblant que sa femme, c'est une vraie femme, c'est vrai. Alors c'est vrai avec elle et c'est vrai avec elle.
Alors,
il y a deux couples. Il y a deux maisons. Il y a deux mariages et il y a deux maisons.
Le drame est vraiment, c'est là que je le sens au maximum, à quel point nous pouvons parler des langages différents. Il est certain que si nous suivions la Bible, c'est-à-dire que si nous adoptions à l'égard du mariage, la même attitude qu'à l'égard de la cache-route, du Shabbat, de l'attitude envers l'homme, de l'attitude envers le vol, tout, le sentiment, tout, alors je crois que la polygamie serait effectivement quelque chose dont nous pourrions parler. Mais
nous parlons de langages différents.
Nous sommes
à ce point particulier.
Il vaut
mieux parler de la réalité polygame, comme le fait la Bible, et aboutir au mariage selon les critères du Talmud, du mariage heureux tel qu'il le souhaite, plutôt que de parler de moralité, nous sommes tous monogames, etc., et être en fait des polygames. Voilà. C'est exactement comme parler de la vertu et faire des crimes, comme l'ont fait toujours les autres religions. Mieux vaut parler des crimes et des guerres bibliques et prôner la vertu telle qu'on devrait l'être. Si on mange toujours la même histoire.
Je crois d'ailleurs que...
Mais
c'est
une autre
chose
que je comprends pas. On est dans une situation d'échec, et nous devons faire un arrêt de réussite. Il ne faut pas voir, si on vit dans une situation d'échec, on n'a pas besoin de voir, c'est l'anarchie, tant pis, on n'a pas rien fait.
Ces lois de la Bible et du Talmud ont pour objectif d'être le mode d'emploi de la transformation de l'échec en réussite. Si nous vivons d'après ces lois, alors ça s'arrange. C'est ça le contrat de l'alliance. Maintenant, je veux dire, pour revenir encore une dernière fois sur la polygamie, je crois personnellement que nous ne sommes pas capables d'être vraiment des polygames. J'ai connu une fois un cher algérien qui était polygame, enfin, il avait trois femmes, mais c'était réussi chez les trois. Hein? Mais c'était des hommes d'une stature extraordinaire, enfin, je ne sais pas si vous voyez que le genre de prince que ça peut être. Bon, mais il n'y a que des caricatures de cela. Qui peut être capable de ça? Mais pas dans. Ah oui, mais pas au Maroc, c'est même pas au Maroc. Mais... Oui.
Le rabbin de Guéné, il a publié un article dans
l'art. Oui.
Le panier. Oui. Finalement, il définit une conception à cette érotisante.
Mais oui, d'ailleurs, si vous avez lu cet article, eh bien, vous retrouverez à peu près ce qu'on avait dit l'autre soir. Il est encore très rabbinique.
Il formule des principes très rigoureux et très
oppressifs. Mais écoutez, il va faire un deuxième article. C'est-à-dire, voilà, j'en ai beaucoup discuté avec lui, ça fait des années. Je vais essayer de l'aider, si j'ose dire très modestement, à évacuer ce vocabulaire puritain qui n'est pas une. Mais c'est ce que d'ailleurs nous avions eu il y a 4 ans dans l'art, nous avons eu une table ronde avec un pasteur, un curé et puis Madame Veilamé. Et puis alors, la position vocabulaire de lui-même était un peu plus loin que celle de son article. Corollairement, pour faire compensation, la mienne était un peu plus en deçà. Et alors c'était extraordinaire à quel point le pasteur disait, écoutez, la religion n'a rien à voir avec ces problèmes, tolérance absolue, que les gens fassent ce qu'ils veulent pour vous qu'on n'ait pas le bon Dieu. Bon.
Le curé disait très, très, très honnêtement, vous comprenez, nous sommes très gênés, on ne sait pas de quoi on parle. Alors, et puis le rabbin dit tranquillement, écoutez, je vous dis, ce sont les règles du planning, mais ça c'est bien que moi j'ai 5 enfants, par conséquent je suis très, très aisé pour en parler, et la loi c'est qu'il faut au minimum en avoir 2, un garçon et une fille, mais vous savez bien que j'en ai 5, par conséquent, si je vous dis qu'on peut disposer, il faut une certaine attitude de maîtriser le problème, hein. Voilà à peu près l'atmosphère de la chose. Et lorsqu'on vit vraiment d'après, il explique d'ailleurs là, si on vit d'après les lois du mariage, il y a vraiment un bonheur à l'intérieur du couple, parce qu'on les pratique vraiment ces lois, et bien chaque mois, c'est de nouveau un mariage comme si c'était la première fois. Je vous garantis que quand on les pratique, on sait très bien que c'est comme ça. Voilà. Et autrement, ça, finalement, on a plaqué les législations sociales apparemment inspirées de la morale biblique, mais qui est purement fictive, pas sur un genre de vie qui est un genre de vie finalement barbare. Ben, vous comprenez qu'on pratique l'érotisme sous forme badine, sous forme très polie, comme ça se fait dans les salons au XXe siècle, c'est quand même de la barbarie sexuelle, habillée derrière toute une politesse, etc. Comme on dit toujours, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et bien, les gens ne sont pas arrivés encore à ça, mais enfin ils aiment la femme du prochain comme eux-mêmes.
Celle d'Henri qui m'a dit hier là, à propos de la rencontre des deux êtres, ma femme et moi nous avons vécu 30 ans heureux et puis nous nous sommes rencontrés.
Oui.
Bon. Eh bien alors, de quoi parlerons-nous la prochaine fois, hein?
Nous continuons parce qu'on a vu des bruits.
Oui,
d'accord.
Parfait.
Alors, merci.
On a terminé
avec le marron.
Non.
Et moi, je vous dis d'ailleurs mes regrets de n'avoir pas pu être la dernière fois. Donc ça, c'était des circonstances dépendantes de mon involonté. Et alors, écoutez, nous allons reprendre le sujet, puisque c'est ce qui avait été prévu. Et je crois qu'il faudrait quand même repasser par un certain nombre de préalables pour nous remettre en question le principe de la méthode. C'est que finalement, nous allons raisonner sur un sujet important, qui est celui des relations interhumaines et en particulier celui des relations hommes et femmes dans le mariage, nous allons raisonner à travers malgré tout un langage, un vocabulaire, je répète un peu ce que j'avais dit souvent sous d'autres formes, un vocabulaire qui est finalement informé d'une façon assez différente des catégories du vocabulaire et de la mentalité hébraïque. Par conséquent, inévitablement, nous aurons à faire halte pour des précisions de notions, pour des précisions de termes, qu'il va s'agir d'identifier corollairement et parallèlement, d'après notre culture contemporaine d'une part, avec tout ce qu'elle peut impliquer elle-même comme préhistoire, comme passé spécifique, et d'autre part de l'identifier au niveau de l'expérience proprement hébraïque. Je crois qu'en réfléchissant à un sujet de ce genre, on se rend compte à quel point, ce que je vous avais peut-être dit aussi d'autres fois, le phénomène traduction de la Bible a été un phénomène dangereux. Puisque cela a été véritablement le déplacement d'un certain nombre d'évidences, d'un certain nombre d'expériences, qui ont été celles de l'identité hébraïque dans d'autres registres qui avaient opté du point de vue du phénomène de conscience pour une toute autre manière de concevoir ce que peut être l'identité humaine et en tout cas les valeurs de sa dignité propre. Alors, je vous préviens de nouveau, nous risquons d'être gênés par ce décalage. Très souvent, je me suis aperçu, à propos de sujets comme celui-là ou d'autres sujets, qu'on projette sur la lecture de la Bible, eh bien, une mentalité préétablie, si j'ose dire, à la suite de notre fréquentation d'autres cultures ou d'autres expériences, et qu'on lui fait dire, finalement, des choses auxquelles elle n'a pas pensé. En tout cas, pour nous, du point de vue de la tradition juive, proprement dit, nous savons déjà depuis longtemps que nous ne pouvons comprendre véritablement l'intention de ce qui est dit dans les lois lorsque cela concerne un problème d'existence que si nous passons à travers l'élaboration talmudique.
il faut demander au Talmud, si vous voulez, ce que la Bible a dit. Pour la raison élémentaire, qui s'est passé 3500 ans entre le temps où la Bible a été entendue et notre temps, et par conséquent, il faut remonter et redescendre sans arrêt à travers toute cette expérience proprement traditionnelle. Et au fond, je vais essayer, si vous voulez, d'introduire l'exposé de ce soir par la question suivante. Enfin, qu'est-ce que la Bible entend par le mariage ? Le mariage, ce n'est pas n'importe quel type de relation entre homme et femme, même si cela a été légalisé par une cérémonie. Finalement, c'était un peu cela que nous avions abordé déjà la dernière fois. Et je pense qu'il serait indispensable de pénétrer un peu plus en détail dans la discussion talmudique concernant la procédure légale du point de vue de la jurisprudence talmudique pour que le mariage soit déclaré réel du point de vue de ce que la Bible nomme mariage. Dans cette discussion concernant la procédure, c'est la nature même de la situation de mariage en tant que fait qui est mise en question. Est-ce que c'est un vrai mariage ou est-ce que c'est autre chose? Voilà pourquoi nous sommes gênés. C'est que finalement, Israël, la société juive, c'est pas seulement la société des hommes dont l'identité est celle que vise la Bible réellement dans toute son authenticité. C'est celle d'hommes qui forment un groupe humain et qui finalement ont la légalité correspondante à la loi biblique. Et c'est ce décalage qu'il faudra toujours avoir présent à l'esprit. Lorsque je vous dis le mariage juif, par exemple, ou la légalisation du mariage juif, ça ne signifie pas du tout que n'importe quel mariage qui aurait été béni selon les lois légales qui sont acceptées par la société juive aurait été ce vrai mariage dont parle la Bible d'une part et dont le Talmud cherche à élaborer les règles formelles. Je crois que cette première remarque était indispensable. Au fond, nous pouvons nous dire, si vous voulez, d'emblée que très peu de mariages dans la réalité correspondent à ce que la Bible entendait par un mariage. Et la question qui s'est posée au Talmudis, c'est à quelles conditions la relation sociale d'un homme et d'une femme, relation sélective, ils se sont choisis pour fonder une maison, pour fonder un foyer, à quelles conditions cela est mariage vraiment, comme l'entend la Bible, de telle sorte de faire refléter cela dans les conditions de la procédure elle-même. Et c'est inversement en étudiant les conditions de la procédure qu'on réintègre finalement ce que la mentalité hébraïque a entendu par le véritable mariage. Alors nous allons partir, si vous voulez, de cette première analyse. Bien entendu, nous ne suivrons pas l'étude talmudique en elle-même, ça me serait impossible. Enfin, je vais procéder, si vous voulez, par approximation. Je vais vous parler de choses qui, apparemment, vont vous apparaître un peu farfelues au début, mais enfin, nous allons essayer de récupérer le contenu. Il y a notamment une discussion entre l'école de Hillel et l'école de Shammai pour savoir de quelle nature doit être ce qui finalement est la bague qui atteste le fait juridique du mariage, de quelle nature doit être l'objet qui sera donné par l'homme à la femme pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme au niveau de la cérémonie légale et juridique sociale elle-même des hommes. Voici quelle est la signification de cette discussion qui, lue, si vous voulez, à ce niveau-là, n'aurait pas de sens. Finalement, il s'agirait de discuter si la bague de mariage, enfin l'anneau de mariage, devrait être en fer blanc ou en or, par exemple, approximativement. Ce serait une discussion apparemment sans aucun sens si on ne voyait pas d'emblée ce qu'il y a derrière. Je pense que je vous ai indiqué déjà cela peut-être trop rapidement la dernière fois, nous allons repartir de cette analyse. Parce que les rabbins ont diagnostiqué ce fait. C'est que, en général, au niveau existentiel, la situation qui déclenche l'opération mariage, c'est-à-dire qu'un homme, un être masculin, il est d'un côté de l'être humain, et un être féminin, de l'autre côté de l'être humain, décide de s'accoupler, si vous voulez, de faire couple, plus exactement, pour fonder une identité humaine qui sera la maison, le foyer, qui résultera de ce mariage, que, en général, les situations au niveau de l'existence montre que la grande majorité des cas est que c'est le désir physique, par conséquent au niveau de la sexualité évidemment, qui déclenche cette situation sociale. Ce qu'institue la Torah, c'est la Bible, si vous voulez, la loi biblique, c'est quelles doivent être les conditions remplies pour que il puisse y avoir l'égalisation du point de vue de la loi au niveau du fait social du mariage, c'est-à-dire de la construction de l'identité humaine à partir de ces deux parties, si vous voulez, de l'être humain, qui se connaissent, chacun d'entre elles, comme isolées et comme séparées. C'est le problème de fond, n'est-ce pas, du point de vue de l'argumentation biblique. Eh bien, ce terme de désir se dit en hébreu « kisouf ». Et lorsque la discussion est entre les deux écoles, de se demander de quel prix doit être l'objet qui légalise le fait social de la constitution de cette acquisition de l'un par l'autre, pour faire l'identité sociale qui va s'appeler le couple et qui est nommée l'homme, avec ses deux parties tendant à se réunifier, et c'est cela... je procède par approximation, mais c'est cela le fait du mariage, kiddushin, en hébreu. Eh bien, au fond, la question est de savoir de quelle nature doit être ce désir pour être habilité comme étant vraiment le véhicule du phénomène mariage. En deçà, il y aurait sexualité pure, et donc c'est d'autres phénomènes sociaux, la loi a d'autres choses à dire pour ces autres manières de considérer la relation homme-femme, mais à partir de quelle feuille ça peut être considéré comme mariage vraiment.